Bonjour à toutes et à tous, c'est Manon, vous êtes bien dans l'émission 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a
les villages.
Qu'on n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
Résistance. De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bonjour et bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15, nous sommes lundi 4 mai ou mardi 5 si vous nous écoutez en rediff. Si c'est le cas, bonne matinée à vous. Au sommaire de l'émission du jour, Valentine, tu as reçu en plateau Stéphane Rosé, vice-président d'AgroBio 35, producteur de lait bio et transformateur fromager, et de Paul Glotin, coordinateur d'événements à AgroBio.
Nous les avons reçus à l'occasion de la fête du lait bio, organisée par AgroBio fin mai, et nous avons échangé sur la place qu'occupe aujourd'hui la filière du bio dans une région historiquement tournée vers la production laitière, comme la Bretagne.
Puis en fin d'émission, Colline de la CIMAD, qui pour la deuxième fois dans 3 en 1, nous parlera des CRA, les centres de rétention administrative. Et plus précisément, aujourd'hui, Colline va nous parler du durcissement des lois liées à l'immigration en France. Ce sera après l'interview de Valentine, aux alentours de 12h40.
Manon, est-ce que tu sais combien d'ouvriers ont voté pour le Rassemblement National lors des élections européennes de 2024 ?
Bonne question, je dirais 40%.
Eh bien la réponse c'était 54. Plus de la moitié des ouvriers français avaient choisi de voter pour la liste portée par Jordan Bardella en juin 2024. On comprend mieux pourquoi l'ERN se présente publiquement comme le parti du peuple.
Mais on est bien d'accord que c'est qu'une façade.
Évidemment, on rappelle qu'ils ont voté contre l'augmentation du SMIC à 1 500 €, contre l'indexation des salaires sur l'inflation ou encore contre le gel des loyers. Et pire encore, ces dernières années, de plus en plus de milliardaires s'accordent avec l'ERN.
Alors qu'avant, ces mêmes chefs d'entreprise formaient un barrage contre l'extrême droite.
Et justement, en décembre 2025, Ross McInnes, le président du conseil d'administration du géant de l'équipement aéronautique, est allé à la rencontre de Marine Le Pen, puis de Jordan Bardella. Alors qu'un an plus tôt, il s'était illustré avec sa charge contre l'ERN dans une tribune du journal Le Monde.
Et ce n'est pas le seul, puisqu'en avril, le Nouvel Obs dévoilait l'information qu'un dîner avait eu lieu entre Bernard Arnault et Marine Le Pen.
Et même si un dîner avec champagne et caviar à volonté peut paraître anodin, en réalité ça en dit long sur le lien qui se renforce entre le RN et les milliardaires français.
Mais est-ce que c'est possible d'être à la fois proche du peuple et proche des milliardaires ?
Eh bien, techniquement, non, car la stratégie du RN est de ne pas effrayer le patronat français. Il y a encore quelques mois, on parlait beaucoup de la fameuse taxe Zuckmann qui visait à taxer les ultra-riches, pas vos grands-parents qui ont une maison secondaire en Vendée, mais bien les personnes dont le patrimoine net s'élève au-delà de 100 millions d'euros. Et ces gens-là devraient verser au moins 2% de leur fortune à l'État. Car en France, les gens sont imposables sur leur fortune et non pas sur leur patrimoine, comme les maisons ou les bateaux. Et c'est comme ça que les ultra-riches contournent ce système. Cette taxe permettrait donc de rétablir un principe d'égalité devant l'impôt. Et cette loi n'est donc pas passée, notamment car le RN a encore une fois voté contre cette proposition, le fameux Parti du Peuple.
Vous écoutiez à l'instant In sur le 94 FM, un titre issu de l'album du duo belge de krautpop Chaton Laveur, sorti le 13 mai dernier. D'ailleurs, ils étaient mardi dernier au Melody Maker à Rennes pour une de leurs dernières de leur tournée en France. Retour en plateau désormais, Paul Glotin et Stéphane Rosé pour parler de la filière du lait bio dans l'agriculture bretonne.
Les dimanches 24 et 31 mai, plusieurs fermes ouvrent leurs portes à l'occasion de la fête du lait bio, notamment en Ille-et-Vilaine. Et derrière les animations et les dégustations, une question de fond. Quelle place occupe aujourd'hui la filière bio dans une région historiquement tournée vers la production laitière comme la Bretagne? Et pour nous éclairer, nous recevons aujourd'hui Paul Glotin d'AgroBio et Stéphane Rosé, éleveur et producteur de lait bio, également transformateur fromager et vice-président d'AgroBio. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça se traduit dans la filière lait, cette notion d'agriculture biologique? Concrètement, qu'est-ce qui est fait particulièrement dans cette industrie pour aller dans ce sens?
Ça s'inscrit dans la dynamique de l'agriculture biologique qui a un cahier des charges. Ce cahier des charges est un cahier des charges européen qui est commun à toutes les productions, donc dans un cadre européen qui s'applique à la France. Et la grande caractéristique de l'agriculture biologique, c'est que donc on cultive bien évidemment sans antibiotiques, sans pesticides, sans engrais de synthèse, et on respecte le cycle du vivant. C'est véritablement la base de l'agriculture biologique, et on travaille du sol à l'assiette en travaillant sur l'agronomie, sur le respect du sol, sur le respect de l'eau, sur le respect de la biodiversité, de manière à amener des aliments de qualité sains aux consommateurs qui peuvent les trouver dans les magasins spécialisés, sur les marchés, chez les producteurs et également par l'intermédiaire de la grande distribution.
Et alors, c'est vrai qu'on entend que la filière bio traverse une période plus compliquée en ce moment, avec une consommation en baisse. Cela impacte-t-il directement les producteurs et comment ?
Ces dernières années, on rencontre un certain fléchissement. C'est vrai que le niveau de consommation a été un petit peu atone et a diminué. On va dire c'est plutôt trois, quatre dernières années, hein, suite donc à l'après-Covid, aux périodes d'inflation où en fait l'agriculture biologique a été un peu malmenée, il faut bien le dire, en considérant qu'elle était chère. Et que donc on a un peu incité les consommateurs à se détourner des produits bio. Ce qui en fait est quand même relativement faux lorsqu'on regarde les produits ramenés à leur qualité, ramenés à leur quantité de consommation, c'est-à-dire que ce sont des produits qui n'ont pas d'eau dedans, ce sont des produits qui se conservent parfaitement bien, ce sont des produits lorsqu'on les cuit, ils restent intacts. Et lorsqu'on cuit, juste pour prendre un exemple, 100 grammes de viande en bio, on en récupère 95. Lorsqu'on en produit sur une lorsqu'on en cuit 100 sur une agriculture type agro-industrie, on en récolte plutôt 70. Donc voilà un peu le rapport. Aujourd'hui, heureusement, on est dans une dynamique plus positive, et c'est-à-dire que la consommation, donc la chute de consommation s'est arrêtée. On est passé par ce palier de stabilité, et aujourd'hui on est plutôt reparti sur une augmentation de la consommation. Sur les magasins spécialisés, on a une augmentation de consommation de l'ordre de 6 à 8%, et sur la grande distribution, qui avait déréférencé des produits, reprennent une commercialisation de produits bio, et donc là effectivement on retrouve des produits bio en quantité dans la grande distribution avec une sensible augmentation. Suivant les produits, c'est un petit peu différent, mais l'augmentation est marquée.
Comment se positionne la filière lait bio dans ce contexte?
Par rapport à la filière lait bio en France ou en Bretagne, effectivement, en Bretagne, le lait bio est véritablement un pilier de la production agricole bretonne, hein, puisque 23% du lait bio est produit en Bretagne. Sur la France, on est à peu près à, pour vous donner un chiffre, on est à un peu plus d'un milliard, un peu plus d'un milliard, 1,128 milliard de litres de lait. Et en Bretagne, on en a 257 millions qui sont produits. Avec 750 livreurs à peu près, qui représentent sur les 3500 producteurs qu'il y a au niveau national. ce qui fait à peu près 5,5% donc au niveau des livreurs en France. Même si on a une diminution au niveau national des surfaces en bio ces dernières années et un peu des producteurs, au niveau de la Bretagne, on constate une certaine stabilité malgré tout.
Peut-on dire que la Bretagne reste structurante dans cette filière lait bio précisément ?
Alors précisément, la Bretagne est complètement structurante et structurée. Au niveau des donc les agriculteurs, au niveau de la production, eux sont organisés autour des GAB qui organisent le développement et l'accompagnement de l'agriculture biologique, et puis aussi des filières de commercialisation, que ce soit au niveau des producteurs qui se sont organisés en groupement, mais également au niveau de la transformation et de la distribution. Au niveau de la filière lait, on trouve de nombreux collecteurs et transformateurs en Bretagne, que ce soit coopératives ou privées, ou aussi des organisations de producteurs. Donc il y a Agrial, Lactalis, Olga qui est tout près de chez nous, là, à Noyal. Au niveau de la coopération, donc il y a Grial, Sodial, etc. Enfin, un certain nombre de structures coopératives, même si elles se regroupent, elles sont présentes. Et puis, il y a également quand même un acteur non négligeable, collecteur, cette fois-ci, sur le lait bio, c'est Biolait, qui est une organisation de producteurs qui rassemble des producteurs pour collecter leur lait et le vendre aux transformateurs.
Ces structures maillent donc vraiment le territoire, oui, et la filière lait bio.
Très
vous
clairement.
Avez évoqué le GAB. Est-ce que vous pouvez nous repréciser ce que c'est pour nos auditrices et nos auditeurs ?
Alors, les GAB, ce sont les groupements d'agriculture bio. En Ille-et-Vilaine, il s'appelle AgroBio 35. Sur le 22, c'est le GAB 22, GAB 29 et le GAB 56. Donc, ces agriculteurs adhèrent à ce GAB, dont le rôle est en fait d'accompagner les agriculteurs dans leur formation, dans les conversions à l'agriculture biologique. Une fois qu'ils sont convertis à l'agriculture biologique, il y a quand même tout un certain nombre de cycles de formation par rapport à la production laitière, là précisément, par rapport à l'agronomie, par rapport aux productions végétales, par rapport au maraîchage, évidemment, qui est très très important en Bretagne, hein. Par rapport à la commercialisation, à la transformation et à la commercialisation, puisque quand même, à AgroBio, sur la Bretagne, à peu près 60% des agriculteurs qui sont en bio ont un acte de commercialisation direct sur leur ferme. Alors, tout ou partie. Il y en a qui sont à la fois sur les circuits longs et sur les circuits courts, donc marchés, magasins de proximité, et aussi donc par les circuits un peu plus longs. Donc, si c'est par exemple le lait, donc, comme on disait, sur les laiteries ou les coopératives locales, mais également de nombreuses fermes commercialisent en direct la totalité de leur production, et ça, on retrouve ça surtout chez les maraîchers, en fait.
On fait semblant, c'est cadeau. On fait semblant, mais c'est chaos. Nuit noire, toi nuagé. Pas pour les saints et les si, si, si. On fait semblant, c'est cadeau. On fait semblant, mais c'est chaos. Monte dans la gova, on met tout à zéro. Même pour les fafons, là on met boule à zéro. Ça vole pas très haut, c'est pas des héros. J'veux un gros chèque avec plein de zéros. Bah, million zéro, on va au bureau. Bah, million zéro, on va au bureau. Dieu dans la sativa, même dans la dérive reste une diva. Mes rêves sont hauts, j'avance solo. Même sans drapeau, j'avance solo. Plein d'ego, j'avance solo. Incognito, j'avance solo. C'est pas de la vie.
j'avance solo. Plein d'ego, j'avance solo. Incognito, j'avance solo. Trois villes blanches avec Maradona. Toute la nuit on a prié Ave Maria. J'ai cherché Dieu dans la sativa. Comme dans la guerre, une diva. Mes rêves sont vides, j'avance solo. Mes sons d'un peu, j'avance solo. Plein d'ego, j'avance solo. Incognito, j'avance solo.
C'était Psycho de Tsegi, un titre de son EP qui sortira le 29 mai prochain. Et tout de suite, on retourne en plateau avec Valentine pour la deuxième partie de l'interview de Stéphane Rosé et Paul Glotin. Ensemble, ils parlent des enjeux du Lébio en Bretagne.
Quel rôle jouent aujourd'hui les distributeurs ? Vous avez évoqué la grande distribution notamment sur la structuration et le poids économique de l'industrie laitière bretonne.
Alors leur place, elle est relativement importante et essentielle. Alors au niveau de la bio, on retrouve quand même les magasins spécialisés avec le réseau Biocoop, hein, qui est quand même bien en place. Mais également, on a d'autres enseignes type La Vie Claire, enfin voilà, qui sont d'autres structures qui viennent commercialiser là spécifiquement des produits bio. C'est véritablement des partenaires des producteurs au niveau de la commercialisation de leurs produits. Et puis, au niveau de la filière Biocoop et de la plateforme, parce qu'en fait, il existe une plateforme, il existe aussi des partenariats avec la transformation au niveau de laiterie ou d'autres produits pour amener les produits dans les magasins. C'est-à-dire qu'un certain nombre de produits ont besoin de se faire transformer. Hein. Alors, si on prend le lait, par exemple, ça peut être tout simplement la mise en bouteille, par exemple. Donc là, des laiteries, des prestataires le font. Mais on a également, au niveau de la grande distribution, une part de la structuration du commerce qui est quand même importante, puisque la grande distribution assure quand même la commercialisation de produits bio dans sa globalité au niveau de la Bretagne.
Et on parle souvent de valeur ajoutée lorsque l'on évoque le bio, que ce soit tant dans l'agriculture que dans la filière lait. Est-ce que le bio permet aujourd'hui de mieux rémunérer les producteurs ?
L'agriculture biologique permet effectivement de rémunérer correctement ses producteurs, de mieux les rémunérer, oui, certainement si on prend les analyses de groupe qui nous sont produites par le CER, mais là encore, l'agriculture bio n'est pas non plus atypique du reste de l'agriculture, des agriculteurs qui en vivent très bien, et d'autres moyennement, et d'autres qui ont un peu plus de difficultés. Il n'empêche que globalement, avec les agriculteurs qui sont en bio, ont une rémunération sensiblement supérieure, si on prend les analyses de groupe, aux paysans de l'agriculture conventionnelle. Il y a la rémunération qui est un élément, mais il y a quand même aussi toute la philosophie d'être en agriculture bio. Et c'est ce plaisir, et on pourrait placer certains par le du bonheur brut agricole par rapport à l'excédent brut agricole. On parle du bonheur brut agricole qui est en fait les valeurs qui sont transmises, qui sont véhiculées par la bio, notamment sur le respect de l'environnement, sur l'absence d'utiliser des pesticides. Et lorsqu'on parle de produits de qualité, et notamment aujourd'hui sur un territoire où on a des problèmes de qualité d'eau énormes, et là j'y viens un petit peu quand même, où effectivement arrêter d'utiliser ou en tout cas diminuer fortement l'utilisation de pesticides est juste inéluctable et absolument indispensable pour alors le bien-être de l'eau, évidemment, parce que ça c'est consommé par tout le monde, mais aussi pour la santé des concitoyens. Et notamment pour les enfants, parce qu'on retrouve, là, on voit un développement très fort de cancer pédiatrique, par exemple, lié aux pesticides. Les chercheurs, les médecins sont parfaitement clairs, sans aller plus loin qu'à Pontchaillou, on rencontre des hématologues qui disent clairement, les pesticides nous posent des problèmes énormes et on a des soucis, génèrent des cancers, y compris pédiatriques, mais pas que, à nos patients. S'il vous plaît, les agriculteurs, diminuez ou arrêtez de mettre des pesticides.
Justement, le bio répond-il suffisamment aux enjeux environnementaux actuels, et particulièrement bretons, selon vous ?
Bien sûr. Alors s'il y a une agriculture qui répond parfaitement et qui coche l'ensemble des cases, que ce soit alors sur qualité d'eau bien sûr, environnement, et puis j'y ajouterai, puisque là on est en train de discuter sur les conférences de la souveraineté alimentaire, l'agriculture biologique est effectivement l'agriculture qui répond pleinement à la souveraineté alimentaire, puisqu'en fait l'agriculture biologique s'appuie sur ce que la terre produit, sur le potentiel de nos sols, et est parfaitement autonome et travaille en autonomie sur les fermes. C'est-à-dire que, pour faire simple, pour produire des aliments, généralement, il faut de l'énergie, des protéines. En agriculture bio, on produit de l'énergie et des protéines au travers des graminées et des légumineuses, pour faire très simple. Lorsqu'on travaille en agriculture conventionnelle, généralement, on produit de l'énergie au travers du maïs en silage pour la production laitière, puisqu'on discute un petit peu de celle-ci. Et les protéines sont produites au travers alors, du soja qui nous vient du Brésil, qui est importé. Par conséquent, lorsque on a une ferme d'une centaine d'hectares ou de 60 hectares, peu importe, en Bretagne, on en a une autre de 25 ou 30 hectares au Brésil pour produire le soja. En termes de souveraineté alimentaire, on fait quand même beaucoup mieux. On est totalement dépendant. Et puis, on a un impact environnemental et un impact carbone qui est non négligeable avec le transport qui est nécessaire pour ramener ce produit d'outre-Atlantique.
Donc la filière bio bretonne permet-elle à la région de tendre vers cette souveraineté alimentaire et vers le renforcement aussi d'un tissu économique local ?
Alors tout à fait. La bio répond pleinement à cet enjeu breton. Et d'ailleurs, on peut inviter le Conseil régional à renforcer son soutien et à accompagner le développement de l'agriculture biologique, alors au niveau de la production, mais aussi au niveau des outils de transformation et de la distribution. Alors ça peut être au niveau des agriculteurs, donc qu'ils soient organisés, mais également d'aider les industriels qui travaillent et qui transforment des produits bio et qui éventuellement les mettent en marché ou travaillent avec des réseaux de distribution. Oui, tout à fait, on répond pleinement à cet enjeu-là et il convient réellement de le renforcer et de l'accompagner.
Justement, derrière tout ça, vous venez d'évoquer les choix politiques, aide, orientation agricole. Est-ce que la filière bio est suffisamment soutenue, selon vous, aujourd'hui ?
Clairement non. Aujourd'hui, donc effectivement, il existe des aides pour la bio. Aujourd'hui, le Conseil régional, par exemple, alors rencontre des difficultés financières, certes, nous n'en disconvenons pas, bien évidemment. Il n'empêche que il faut être courageux et faire des choix pour l'environnement, des choix pour la qualité de l'eau, des choix pour les produits de qualité. La bio répond à ces enjeux-là. Par conséquent, oui, il faut conserver, encourager et renforcer les financements en direction de cette production-là. Et effectivement, le Conseil régional, plutôt que de diminuer ses fonds à destination de la bio, devrait, et on les appelle évidemment à les renforcer.
L'avenir du bio en Bretagne, ça vous inquiète ou au contraire, est-ce que vous êtes confiant ?
Non, moi je suis confiant sur l'agriculture biologique en Bretagne, puisque quand même, en bio, aujourd'hui, c'est 35% des installations qui sont aidées. C'est quand même pas neutre. Hein. Aujourd'hui, donc la bio représente 12-13% de l'agriculture. Alors, en France et en Bretagne. Et 35% des agriculteurs qui s'installent et qui sont aidés, sans compter les autres, hein, s'installent en bio. Ce qui veut donc dire qu'il y a un élan énorme pour l'agriculture biologique, parce qu'il y a un souci de la part de ces jeunes-là de produire sainement. Au niveau des installations des jeunes, il y a un élan qui ne diminue pas. Par conséquent, on peut être tout à fait confiant sur le futur de la Bretagne, avec une part non négligeable et en augmentation de l'agriculture biologique, bien sûr.
Eh bien, on le souhaite. En tout cas, merci Stéphane Rosé pour toutes ces indications sur l'industrie laitière biologique en Bretagne. Je m'adresse maintenant à vous, Paul Glotin. Je rappelle que la fête du lait bio organisée par AgroBio 35 se tiendra les dimanches 24 et 31 mai dans plusieurs fermes d'Ille-et-Vilaine. En quoi ce genre d'événement est important pour la filière bio, Paul Glotin ?
C'est un événement super important parce qu'il permet de mobiliser, de rassembler. Donc en Ille-et-Vilaine, ça représente 5 fermes qui vont organiser cet événement. C'est une ambiance chaleureuse, conviviale et surtout gourmande. Ça permet de découvrir comment on produit bio, qui produit bio, où est-ce qu'on produit bio.
Une façon donc de découvrir de l'intérieur un petit peu mieux cette filière qui fait vivre l'environnement agricole breton. En tout cas, merci Paul Glotin et Stéphane Rosé d'être venus dans les studios de Canal B pour nous parler de toute cette filière en mouvement. Et puis on vous souhaite une très bonne fête du lait bio. Très bientôt.
Merci.
Merci.
Et aujourd'hui dans l'émission du jour, la CIMADE est de retour sur le plateau de 3 en 1. Colline, on va revenir ensemble sur le durcissement progressif des lois sur l'immigration en France et plus particulièrement sur celles en lien avec la rétention administrative.
En moins de 40 ans, il y a eu plus de 20 lois sur l'immigration qui ont été adoptées en France et très souvent, des dispositions sont en lien avec la rétention administrative. À chaque réforme, les durées maximales d'enfermement s'allongent, les protections contre l'expulsion diminuent et les critères de prolongation de la rétention s'assouplissent. Il est alors plus facile pour les préfectures d'obtenir la prolongation de l'enfermement.
Une nouvelle proposition dont tu vas nous parler aujourd'hui s'inscrit précisément dans cette longue série, n'est-ce pas ?
Oui, exactement. Pour rappel, aujourd'hui, la durée maximale d'enfermement dans un centre de rétention administrative est de 90 jours, sauf cas particulier de personnes condamnées pour terrorisme. Mais il y a une nouvelle proposition de loi qui est nommée proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentats, qui a été déposée à l'Assemblée nationale le 11 février 2026. Et en fait, certains responsables politiques souhaitent allonger encore la durée maximale de rétention en permettant dans certains cas d'aller jusqu'à 210 jours de rétention, soit environ 7 mois d'enfermement.
Et cette idée n'est pas nouvelle. L'été dernier déjà, une loi avait tenté d'introduire cet allongement de la rétention à 210 jours, mais le Conseil constitutionnel l'avait censuré, estimant que cette mesure portait une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle consacrée par la Constitution. L'idée revient donc aujourd'hui sous une version légèrement modifiée.
Oui, tout à fait. Le nouveau texte précise notamment que cet allongement serait exceptionnel, entre guillemets, et concernerait des personnes condamnées pénalement et considérées comme représentant une menace grave pour l'ordre public. Mais dans les faits, finalement, les critères restent très flous.
Au-delà de l'allongement de la durée de rétention administrative, cette proposition de loi prévoit également un cadre légal pour les réitérations de placement. Peux-tu nous en dire un peu plus sur le sujet ?
Depuis plusieurs mois, on constate que de plus en plus de personnes reviennent plusieurs fois en centre de rétention. Elles sont enfermées plusieurs fois sur la base de la même décision d'expulsion. Donc finalement, parfois, on est amené à rencontrer des personnes qui sont enfermées 2, 3, voire même 4 fois pendant 90 jours lors des 2 dernières années, restant finalement parfois libre juste quelques semaines entre 2 enfermements. Par exemple, une personne qui a reçu une OQTF en 2024 va être enfermée en octobre 2024, sortir début 2025, puis de nouveau être enfermée en mars 2025 pour ressortir 3 mois plus tard et ainsi de suite. Le juge, il est censé vérifier que la durée totale d'enfermement sur la base d'une même décision d'expulsion est proportionnée et justifiée.
Que prévoit la proposition de loi ?
La proposition de loi, elle prévoit finalement la possibilité d'enfermer plusieurs fois la même personne en rétention sur la base d'une même décision d'expulsion. Avec seulement quelques jours de pause entre 2 enfermements, cela pourrait permettre en fait d'enfermer quelqu'un jusqu'à 1 an au total et même jusqu'à 18 mois dans certains cas et une rétention administrative qui ne cache finalement plus ces aires de carcéralisation.
Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette tendance au durcissement des politiques migratoires ?
Cette tendance, elle s'est déjà observée avec la loi Asile et Immigration qui a été adoptée en janvier 2024. Elle avait notamment supprimé plusieurs protections contre l'expulsion qui existaient auparavant pour certaines personnes vivant en France depuis longtemps, pour les parents d'enfants français ou encore les personnes mariées. La durée moyenne de rétention augmente et les prolongations jusqu'au maximum des 90 jours de rétention sont devenues de plus en plus fréquentes.
En théorie, la rétention administrative n'est pas une peine.
En effet, elle est censée être une mesure administrative temporaire, utilisée uniquement pour organiser l'expulsion d'une personne dans un délai très court, ce qui démontre que la rétention administrative, elle est de plus en plus utilisé comme un outil punitif, une forme de sanction supplémentaire qui vient s'ajouter à d'autres mesures, ce qui en fait une double peine pour les personnes qui sont concernées.
Et quelles sont les conséquences que vous observez sur les personnes retenues ?
Dans les faits, les centres de rétention, ils n'ont jamais été conçus pour des enfermements aussi longs. Les personnes retenues, elles n'ont presque aucune autonomie. Elles ne peuvent ni travailler, ni suivre une formation, ni organiser leur quotidien. Elles ne peuvent même pas se déplacer librement d'un bâtiment à l'autre dans beaucoup de CRA, comme c'est le cas à Rennes. Donc les journées, elles sont longues, rythmées par l'attente et l'angoisse finalement d'une expulsion forcée. La CIMAD, de son côté, continuera de se battre, de faire de la sensibilisation auprès du public et du plaidoyer auprès des décideurs et décideuses politiques pour faire entendre justement la voix de ces personnes enfermées.
Eh bien merci Colline de la CIMAD. On te retrouvera soit toi, soit quelqu'un d'autre de la CIMAD dans quelques semaines sur 3 en 1.
Merci beaucoup.
3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Paul Glotin et à Stéphane Rosé d'avoir répondu à nos questions. Merci à Colline de la CIMAD pour sa chronique. Vous pourrez les retrouver très bientôt dans 3 en 1. Et merci à toute l'équipe de 3 en 1 pour la réalisation de cette émission, Julie, Nina et Valentine. Tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur notre site canalb.fr et à réécouter les lendemains en rediffusion sur le 94 FM à 8h15.